Bonjour tout le monde. C'est prend le temps ce matin, le 23 octobre 2006. Et puis, nous avons un studio bien rempli ce matin. Nous avons en fait trois invités que je vous présenterai un peu plus tard. Et comme de raison, notre technicienne à toute épreuve, Claire Desrosiers, qui va nous guider d'une main de maître, comme d'habitude. Parmi nos invités, nous avons ce matin Diane Bazin. Bonjour. Monsieur Bernard Vauquel.
Bonjour, bonjour.
Et puis Gilles Lesage.
Bonjour.
Non le moindre. Nous allons ouvrir les lignes téléphoniques aux appels de l'extérieur aujourd'hui et nous vous invitons instamment à nous appeler à un des numéros suivants. À l'urbain, le 233-3691, donc le 231-3691. Et pour l'extérieur, sans frais, 1-866-894-3691. Si par hasard, vous n'étiez pas en mesure de prendre ces numéros, je les répéterai un peu plus tard, donc procurez-vous une plume et un crayon. Et puis, je reviendrai avec ces numéros-là par la suite. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est ni plus ni moins qu'un projet qu'on est en train de mettre sur pied en histoire orale qui vise l'agriculture, ou du moins tout ce qui s'est passé dans le domaine agricole depuis aussi longtemps qu'on peut retourner. Nous discuterons en long et en large au cours de cette émission. Et puis, avant de commencer, nous allons nous mettre un peu dans l'ambiance. Et puis, moi, j'ai choisi la Bolduc pour faire ça, parce que j'aime bien la Bolduc. Et puis, je trouve qu'elle insuffle un peu d'entrain. Et puis, c'est cet aspect-là que j'aime en particulier. La chanson s'appelle « Nos braves habitants ». Elle a été disquée en 1931. Mary Travers, la Bolduc, c'était l'épouse d'Edouard Bolduc, et c'est pourquoi on l'appelait la Bolduc. Elle était gaspésienne d'origine, la première véritable auteure, compositeur, interprète du Québec et du Canada français. J'ai choisi cette chanson parce qu'elle a beaucoup d'entrain, comme je disais tout à l'heure, et que cela représente bien la situation des agriculteurs durant la Grande Dépression, qui géraient des fermes qui étaient essentiellement autosuffisantes, alors que les citadins, plus souvent qu'autrement, devaient tirer le diable par la queue pour gagner leur pain quotidien. Il s'agit, dans la chanson, en fin de compte, d'échanger le mot Winnipeg pour Montréal, et puis on est en plein dans la situation telle qu'elle existe chez nous, donc la Bolduc.
C'est aux braves habitants que je m'adresse maintenant. T'as venu d'une année de l'an et d'une année de l'âme. Quitte jamais vos campagnes pour venir rester à Montréal. T'as venu d'une année de l'an et d'une année de l'âme. Dans des grandes villes comme ça, de la misère, il y en a. Et surtout cet hiver, il y en a qui mangent du pain noir. T'as venu d'une année de l'an et d'une année de l'âme. Nos habitants sont contents de voir arriver le printemps. Puis t'as venu d'une année de l'an et d'une année de l'âme. Avec leurs femmes et leurs enfants, s'en vont travailler au champ. T'as venu d'une année de l'an et d'une année de l'âme. De l'orgueil, il n'y en a pas. On me parle moins d'un sort. T'as venu d'une année de l'âme.
en êtes les dames. Quand l'hiver est arrivé, il y a quelque chose pour manger. À d'une tarlée d'une année, d'une tarlée d'une année de l'homme. Leur cave et leur amoisse sont remplies provisions d'hiver. Une tarlée d'une année, d'une tarlée d'une année de l'homme. À part de ça, ils ont de l'argent, ils ont pas besoin de la Saint-Vincent. Une tarlée d'une année, d'une tarlée d'une année de l'homme. Écoutez-moi mes amis, est-ce que vous étiez restés ici? Tarlée d'une tarlée de l'homme, tarlée d'une tarlée de l'homme, et les dames. Les gens qui trouvent de fin, Montréal en a déjà plein. En tarlée d'une tarlée d'une tarlée d'une tarlée de l'homme. Gardez vos enfants chez vous pour faire des habitants comme vous. En tarlée d'une année de l'année d'une année de l'âme. C'est mieux que de courir les rues et passer leur temps aux petites vues. Tarlée d'une année de l'année d'une année de l'âme. Tout en cultivant leurs champs, ils développent leur talent. Tarlée d'une année de l'âme, tarlée d'une année de l'année de l'âme. C'est avec ces gens-là qu'a prospéré le Canada. En tarlée d'une année de l'année d'une année de l'âme.
Maintenant, nous allons procéder à présenter le projet en particulier, là, nous donner un peu la puce à l'oreille, nous mettre la puce à l'oreille en ce qui concerne les raisons pour lesquelles on a mis sur pied ce projet. Et je vais demander, en fin de compte, à Gilles Lesage, qui est... c'est directeur que tu es? Oui. Directeur de la Société historique. Et puis, Diane Bazin, qui a toutes sortes de chapeaux, mais... lequel est-ce que...
Gestionnaire du développement communautaire à la Société franco-manitobaine.
Ah bon, donc c'est, voilà ce qu'il y en est. Et puis Bernard, on va revenir à Bernard un peu plus tard. Mais pour la genèse du projet, les buts, les objectifs, et ainsi de suite, et ce en quoi consiste l'histoire orale, je laisse la parole à ces deux personnes-là, Gilles et Diane.
Bien, Diane, veux-tu commencer? Parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui a pris sa source au réseau communautaire, là.
C'est ça. Lors d'une rencontre du secteur patrimoine, il y a déjà, je pense, 3 ans, on avait indiqué une grosse préoccupation dans la communauté parmi tous les partenaires du secteur patrimoine. Et ça, c'était la richesse qu'on risquait à perdre, la richesse de nos aînés avec toute leur expérience, leur connaissance qui était uniquement enregistrée dans leur cerveau. Donc, on voulait vraiment s'assurer de trouver des moyens d'enregistrer ces connaissances-là avant de les oublier. Et de là est sorti un premier projet qui était le projet d'inondation, d'enregistrer tout ce qui avait à faire avec l'inondation. Ça a été fait surtout dans la région de Saint-Adolphe. Et ensuite, on est arrivé l'automne passé à commencer avec le deuxième projet qui avait été priorisé lors de cette même rencontre-là.
Oui, alors c'est ça, puis en même temps, bien, ça rencontrait bien aussi des objectifs de la société historique, particulièrement du secteur des archives, parce que on s'était rendu compte que dans l'ensemble des archives qu'on avait reçues, le secteur économique et en particulier le secteur agricole était très, très pauvre. On n'a pratiquement aucune documentation sur ces secteurs-là. Et puis comme on sait, l'agriculture, c'est quand même quelque chose à quoi se rattache presque tous les franco-manitobains. On a soit grandi sur la ferme, ou on a des parents qui étaient sur la ferme, ou des grands-parents, ou des cousins, ou des oncles. En tout cas, je pense qu'il n'y a personne qui n'a pas un lien quelque part qui les rejoint à la campagne. Alors, on s'était dit que c'était extrêmement important, surtout qu'il y a eu tellement de changements qui se sont faits au courant du 20e siècle, et que avant que tout ça soit perdu, il fallait absolument s'assurer de rassembler ce qu'on pouvait. Puis peut-être aussi d'ajouter une parenthèse ici, c'est qu'en faisant le projet d'histoire orale, parce que c'est des conversations qu'on enregistre, on va aussi encourager les gens à vérifier ce qu'ils ont comme documents, soit photographiques, soit des écrits, soit des contes, quoi que ce soit qui permet de mieux comprendre l'évolution de cette réalité-là, et puis de les encourager à prendre des mesures pour les conserver, tout ça pour les générations futures, parce que ça va être important que les petits-enfants, puis les arrière-petits-enfants, puis ceux qui viendront après, puissent prendre connaissance de ça.
Et puis de façon pratique, en ce qui concerne nos auditeurs, là, les gens du troisième âge, qu'est-ce que ça implique?
Bien, ouais, au niveau pratique, ça veut dire d'abord que nous, on doit faire notre travail au niveau d'identifier des personnes, identifier ceux qui pourraient contribuer à se faire interviewer. Ça se fait avec une enregistreuse. Et puis, on a aussi identifié des personnes qui seraient bonnes à faire des interviews. Alors, tout ce travail préparatif est encore en train de se faire, là, de se finaliser. Ce qui va se produire par la suite, c'est qu'il y a des contacts qui vont être pris. Des personnes qu'on a identifiées vont être contactées. On va commencer les rencontres, commencer à parler du projet, puis éventuellement s'asseoir, puis faire des interviews. Puis c'est certain qu'en cours de route, on va se rendre compte qu'il y a peut-être d'autres personnes à qui on n'avait pas pensé, qui pourraient être vraiment intéressantes ou qui ont beaucoup à dire. Alors, on va certainement s'assurer de les contacter aussi. Bien entendu, c'est limité. On a juste jusqu'à la fin mars à peu près là, pour cette première partie du projet. Mais on va essayer d'en faire autant qu'on peut et de toucher aussi à autant de régions que possible et pas juste se limiter à un endroit.
Ce qu'on a l'intention de faire par la suite, vous voulez-tu ajouter quelque chose, Diane?
Non, je pense que ça va très bien. Le premier contact sera fait avec probablement les agents dans plusieurs cas. Et ensuite, les enquêteurs vont faire la prochaine partie, qui est l'enregistrement.
Ce que nous avons l'intention de faire aujourd'hui, en fin de compte, c'est... on a eu la présentation, maintenant on a une petite idée de ce en quoi consiste le projet. Ensuite, nous allons aborder des thèmes possibles dans cette recherche que nous allons faire, là. Nous allons consulter des gens, mais consulter à propos de quoi? C'est surtout que ce genre de choses que j'aimerais discuter. Et puis, après la prochaine chanson, là, je vais tout simplement ouvrir tous les micros, là, pour que nos trois participants, surtout, soient en mesure de donner leurs impressions. Voilà, la prochaine chanson, c'est notre deuxième chanson, nous reporte encore une fois à 60 ans en arrière. Je me rappelle, dans les années 40, que nous possédions chez nous un de ces gramophones à manivelle. Je ne sais pas si vous rappelez ce que c'était. Ça, il fallait tourner la manivelle pour faire fonctionner l'appareil. Cet appareil nous permettait de jouer des disques vinyles 78 tours. Nous possédions très peu de ces disques. Cependant, nous en avions un qui s'intitulait « La chanson des blés d'or ». Voici donc cette même chanson chantée par Jules Jacob.
Lorsque l'étoile du mystère revient briller dans le ciel bleu, as-tu parfois sur la colline, parmi les souffles caressants, entendu la chanson divine que chanteraient les frémissants? Mignonne, quand le soir descendra sur la terre, dès que le rossignol viendra sentir encore. Quand le vent soufflera sur la verte bruyère, nous irons écouter la chanson des blés d'or. Nous irons écouter la chanson des blés d'or.
Tout d'abord, un petit rappel en ce qui concerne les numéros de téléphone à appeler. Là. C'est le 233-3691. J'espère que vous avez votre crayon et votre papier. Encore une fois, le 231-3691 ou encore, sans frais pour l'extérieur, 1-866-894-3691. Donc, 3691, c'est dans les deux cas. 1-866-894-3691. Et puis, nous invitons simplement de communiquer avec nous et de partager ce que vous voudriez bien partager. Maintenant, je vais ouvrir la discussion. L'idée, c'est de donner une petite idée là de ce qu'on pourrait discuter dans ces rencontres, ces interviews qui retournent en fin de compte sur l'histoire de l'agriculture au Manitoba. Donc j'ai déjà présenté Diane et Gilles, mais nous avons aussi M. Bernard Bockel. Je ne sais pas si tu avais un titre qu'on voudrait qu'on... Ben, j'ai donné un titre aux autres, là, je voudrais pas.
Non, je n'ai pas nécessairement besoin de titre.
Ah ben, ça va.
Non.
Donc, bonjour Bernard. Et
bonjour Paul.
Je suis bien content que tu sois là. Je lance tout simplement la discussion aux trois, si vous voulez aborder un sujet ou un autre.
Bien, je vais donc me retrouver dans la capacité de ce qu'on appelle un enquêteur. Je pense que c'est un mot pas tout à fait agréable à assumer, alors je préfère encore être appelé journaliste. C'est la partie journaliste en moi à laquelle j'ai fait appel quand Gilles Lesage m'a appelé il y a quelques semaines en me demandant si j'étais intéressé à participer à pareil projet. Et puis, ça a réveillé en moi les très bons souvenirs dans les années 80 quand je travaillais à La Liberté. Bon, ben, comme journaliste, on a toutes sortes d'articles, d'informations à faire au niveau des nouvelles. Et puis ensuite, il y a toujours, dans le cadre d'un hebdomadaire, on essaye d'aller vers des sujets un petit peu plus en profondeur. Et puis là, ça a rappelé en moi les portraits que j'aimais beaucoup faire, le privilège de rencontrer des gens et de partager pour 2-3 heures avec eux des temps forts de leur vie. Alors oui, ça sera pour moi un privilège de rencontrer des personnes, de discuter avec elles, d'aborder différents moments de leur vie, et puis d'avoir peut-être le maximum d'informations possibles, parce qu'on sait bien, et c'est la nature de ce projet-là, on ne sait pas vraiment qui un jour, au niveau des chercheurs, utiliseront et pour quelles raisons ils vont utiliser les enregistrements, le travail que nous allons faire. Alors c'est le petit défi de ce projet, ça va être justement d'avoir de la part des gens une sorte d'effort maximal, de pouvoir vraiment accepter qu'il n'y a pas une question qui n'est pas une bonne question, qu'il y aura peut-être un petit détail sur une machine agricole dont ils se souviendraient, qui feront peut-être dans 10, 20, 30 ans les délices d'un chercheur.
Oui, ben, je pense que en disant machine agricole, moi, ça m'a tout de suite accroché parce que quand je pense à l'agriculture, ce qui me frappe le plus en regardant un peu en arrière, c'est tous les changements qui se sont faits. Puis la machinerie agricole, c'est peut-être un des thèmes où ça, c'est le plus visible. Parce que si je retourne en arrière au temps de mon grand-père quand il était jeune, c'était les chevaux, la machine à vapeur est venue, le tracteur à gaz, le tracteur à diesel, et puis c'était des petits, puis ensuite des moyens, puis ensuite des gros et des éléphants.
Des monstres.
Les grands. Mais puis tout ça, ça s'associe aussi à tous les autres changements qui se faisaient, que ce soit au niveau de la grandeur des terres, ou bien juste la question du transport, comment tout ça, ça changeait aussi avec le temps. Alors, c'est vraiment incroyable tous les thèmes qu'on peut finalement aborder et toucher en partant de cette perspective-là.
Je pense que c'est évident que les gens qui sont en agriculture, qui ont été en agriculture dans les derniers 50 ans, ont vécu une évolution absolument extraordinaire. Hier soir, j'écoutais une entrevue que j'avais fait avec un monsieur Comeau, il y a 30 ans, exactement. Et puis, où il expliquait ce que ça impliquait d'utiliser un de ces mastodontes là, qu'il y avait dans les champs à ce moment-là. Donc, c'était une de ces grosses machines qui fonctionnait à la vapeur. Et puis, il fallait, comme des raisons, alimenter la fournaise, donc ça impliquait que si on l'apportait dans le champ, bien il fallait transporter soit le bois, le charbon ou la paille qu'on se servait pour faire bouillir l'eau. Donc ça prenait des gens, puis surtout il fallait avoir l'eau. Je sais moi que je suis de Saint-Jean-Baptiste et puis des puits, ça n'existe pas. Donc, ces gens-là devaient aller chercher, avec des barils de 45 gallons, ils devaient aller chercher l'eau dans la rivière ou dans un étang quelque part. Et puis, au seau, hein, c'était à la chaudière, il fallait remplir ça à la chaudière. Et puis ensuite, une fois rendu, il fallait le vider aussi de la même façon. Donc, ça prenait énormément de monde autour de ce fameux appareil-là. Imaginez-vous l'évolution qu'il y a eu depuis ce temps-là. C'est absolument incroyable. Incroyable.
Puis c'est là l'importance de justement aller voir si on a d'autres gens qui ont encore ces souvenirs-là, puis qui peuvent nous les rendre vivants.
Oui. Alors justement, on espère qu'il y a un certain nombre de ces personnes qui sont à l'écoute, qui sont en train de se demander, mais qu'est-ce que je pourrais bien raconter comme souvenir, et qui sont en train de se creuser déjà la cervelle et qui songent peut-être à nous appeler. Alors, comme le thème un peu qu'on aborde ce matin, le thème conducteur, c'est celui de l'évolution des choses. Alors, comme on a abordé la discussion sur le plan des machineries, il y a une espèce de petite théorie que je me suis faite un jour, et puis je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui pourraient nous la confirmer, mais dans le temps où le fermier tenait les deux manchons de sa charrue, il y avait comme un certain contact avec le sol. Il y avait aussi un contact avec les animaux. Il était vraiment dans un monde où d'ailleurs l'animal avait forcément un nom, tu sais. Le cheval, c'était la Jess ou quelque chose comme ça. Il y avait des noms. T'sais. Je pense pas qu'aujourd'hui on donne des noms aux gros éléphants dont Gilles parlait tout à l'heure. Et le point que j'aimerais faire, donc, c'est que quand on est au contact avec le sol, avec l'humidité, avec la terre qu'on a envie de toucher, qu'est-ce qui se passe quand tout à coup on a des gros tracteurs? Est-ce que le contact avec la terre, avec l'espace, n'est pas en train de changer complètement? Est-ce qu'on n'est pas en train de voir la terre comme quelque chose d'autre?
Même dans certains cas, il y a un écran qui nous montre ce qui se passe dans la machine en arrière.
Exactement.
Oui, c'est tout à fait ça. Maintenant, le fermier n'est plus avec le GPS, tout est organisé d'avance. Et je me dis des fois, puis c'est évidemment peut-être une manière extrême de le voir, mais quand on pense un peu à tout l'agroalimentaire, à toute l'évolution maintenant de l'agriculture, je me dis des fois, est-ce que le fermier maintenant, aujourd'hui, il n'est plus simplement que des bras et des jambes au service de tout un gros système qui nous dépasse tous. Ça, c'est quelque chose de... Ça, c'est une question qui, à un moment donné, mériterait sans doute d'être abordée. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire à cet égard.
Il va falloir être patient pour ceux qui appellent, parce qu'on est en train de s'organiser ici, là. Si vous avez appelé et pour une raison ou pour une autre, ça n'a pas passé, là, reprenez, s'il vous plaît, refaites le numéro et puis on va tâcher de s'organiser ici.
Oui, parce que pour la radio aussi, il y a une évolution de la technologie.
C'est ça,
hein? On pourrait parler aussi beaucoup de l'évolution de la technologie au niveau radiophonique depuis 60 ans.
Ben, peut-être qu'avant de passer à une autre chanson, moi, je vais relancer Diane ici, là. Et puis, tout simplement pour dire que les femmes faisaient partie des fermes aussi. Donc, ils avaient sans doute un rôle à jouer. Il ne faudrait pas les mettre de côté. Peut-être que c'était pas elles qui allaient chercher l'eau à la rivière là, pour les tracteurs. Mais elles avaient certainement autre chose à faire.
Exactement. Et c'est un des éléments qu'on souhaite avoir en discussion. Le rôle de la femme et aussi de la famille des enfants. C'est deux éléments que des fois on y pense pas tout de suite, mais je crois qu'ils avaient des rôles très très importants et on souhaite qu'on ait des femmes là qui pourraient justement nous éclaircir sur un peu des sujets de ce que eux ont fait.
Qu'est-ce qu'ils faisaient les femmes?
Un peu de tout, malheureusement. je pense que leur journée n'arrêtait pas. Du matin à la soirée, ils avaient la responsabilité de la famille, de la maison. Et de plus, je crois qu'ils faisaient beaucoup de l'ouvrage sur la ferme avec les maris.
Mm-hmm. Oui. Comme par exemple, dans certains cas, c'était la femme qui tenait les comptes, qui s'occupait du côté plus financier. Parce que ça arrive à l'occasion, c'était aussi les femmes qui avaient le plus d'éducation.
Ah ben ça, c'est intéressant.
Alors ça peut être un autre aspect là, du rôle de la femme.
Oui, il y a aussi l'aspect que dans les temps forts de l'agriculture, là, lorsque le mari était au champ, par exemple, la femme assumait des responsabilités qu'elle n'avait pas nécessairement autrement, par exemple la traite des vaches.
Ah oui, 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 absolument.
Ensuite, qu'est-ce qu'on faisait avec le lait une fois qu'il arrivait dans la maison? C'était la femme qui manœuvrait tout ça. Les poules, ainsi de suite, donc...
Oui. Ben, puis par exemple aussi, si on faisait boucherie, ben c'est probablement les hommes qui abattaient, mais ensuite, le boudin, c'était la femme qui le faisait.
Oui, les saucisses et ainsi de suite, oui.
C'est lorsque l'ouvrage de la cour de ferme était justement fait par les enfants puis la femme, je crois.
Oui. Dans la première chanson, on parlait d'autosuffisance des fermiers. Pour une raison, la femme s'occupait d'un très grand jardin. Donc, ça faisait partie, ça, de l'ensemble. C'était quand même extrêmement important dans la vie d'une ferme, ça. Nous allons procéder à une autre chanson et nous allons discuter d'autres thèmes par la suite. La prochaine chanson, c'est Madrigaya et il s'agit de « Grains de mille ».
Chez mon père, il y a un pommier doux, il y a un pommier doux. Les trois filles d'un prince sont endormies dessous. Ah, j'ai du grain de mie, j'ai du grain de paille, j'ai de l'oranger, j'ai du tri, j'ai du tricolis, j'ai des allumettes, j'ai des ananas, des pierres à fusil, des lauriers fleuris. J'ai du si, j'ai du tunisie, j'ai du zunezuné, j'ai du zunezo, j'ai de beaux, j'ai de beaux, j'ai de beaux oiseaux. Les trois filles d'un prince sont endormies dessous, sont endormies dessous. La plus jeune sœur s'éveille, dit ma sœur, il est jour. Ah, j'ai du grain de mie, j'ai du grain de paille, j'ai de l'oranger, j'ai du tri, j'ai du tricolis, j'ai des allumettes, j'ai des ananas, des fleurs à fusil, des lauriers fleuris. J'ai du si, j'ai du zunusi, j'ai du zunusone, j'ai du zunuso, j'ai de beaux, j'ai de beaux, j'ai de beaux oiseaux. La plus jeune sœur s'éveille, dit ma sœur, il est jour, dit ma sœur, il est jour. Nos amants sont en guerre, ils combattent pour nous. Ah, J'ai du grain de paille, j'ai de l'oranger, j'ai du tri, j'ai du tricolis, j'ai des allumettes, j'ai des ananas, des pierres à fusil, des lauriers fleuris, j'ai du zi, j'ai du zunuzi, j'ai du zunuzuné, j'ai du zunuzo, j'ai de beaux oiseaux. Nos amants sont en guerre, ils combattent pour nous, ils combattent pour nous. S'ils gagnent la bataille, ils auront nos amours. J'ai du grain de paille, j'ai de l'oranger, j'ai du tri, j'ai du tricolis, j'ai des allumettes, j'ai des ananas, des fleurs à fusil, des lauriers fleuris. J'ai du zi, j'ai du zoulouzi, j'ai du zoulouzouné, j'ai du zoulouzou, j'ai de beaux oiseaux. S'ils gagnent la bataille, ils auront nos amours, ils auront nos amours. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils les auront toujours. J'ai de l'oranger, j'ai du tri, j'ai du tricolis, j'ai des allumettes, j'ai des ananas, des fleurs à fusil, des lauriers fleuris. J'ai du zi, j'ai du zoulouzi, j'ai du zoulouzouné, j'ai du zoulouzou, j'ai de beaux oiseaux.
On reprend notre discussion en ce qui concerne les sujets qu'on pourrait aborder dans une étude comme celle-là. On a parlé tout à l'heure de l'apport des femmes. Je pense que Diane, tu avais quelque chose à ajouter là-dedans.
Ben, juste en y pensant un petit peu, je me dis, ben misère, il faisait tout. Il faisait le pain, le lavage, le jardinage, le canage, parce qu'on n'allait pas magasiner pour énormément d'affaires. Ils avaient tout sur la ferme, du lait, des œufs, le tout était là. C'est qu'ils en avaient de l'ouvrage. Dieu merci que je ne suis pas de cette époque-là.
Puis ensuite, avec les enfants, il y avait aussi, souvent, ils faisaient la couture eux-mêmes, ils faisaient...
Tous les habits.
On parlait d'autosuffisance, là, au départ, puis c'était vraiment autosuffisance à tous les niveaux.
Oui.
Ça finissait pas.
Oui, généralement, l'autosuffisance au point où on n'était pas vraiment... favorable à voir les gouvernements se mêler de nos affaires, bon, ben il y avait un certain rapport avec Monsieur le curé, forcément, parce qu'il y a la dîme, donc l'argent, on comprend bien que l'argent, c'est un thème extrêmement important dans la vie agricole, pas pour être provocateur, mais enfin, il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs qui vont se vanter en disant que bon, ben, ils ont maintenant suffisamment d'argent pour aller à Las Vegas. C'est fascinant de voir aussi quand on connaît un peu, je connais un petit peu des agriculteurs au Manitoba, j'en ai bien connu aussi dans ma terre natale, en Forêt-Noire, en Allemagne. La mentalité de l'agriculteur, on parle évidemment de la mentalité de l'agriculteur, mais elle se décline toujours d'une manière individuelle. Par exemple, quand il y a plusieurs agriculteurs dans une famille, bien on sait bien que au niveau de la récolte, il y a celui qui va dire exactement ce qu'il a eu. Toi, tu as fait combien de minots, hein, là? J'ai fait tant. Et puis il y a le frère, lui, ben, en dedans de lui, ben, il veut pas que. Alors il va dire, oh moi je fais plus que ça. Alors que peut-être qu'il avait fait un peu moins. Et puis il y a l'autre frère, lui, ben, il est un peu plus conservateur dans son approche, et puis il va dire que peut-être sa récolte, elle était un peu moins importante. Alors que tous les autres frères, évidemment, ne sont pas dupes, parce qu'ils savent bien que ouais, ben, Joe ou Paul ou Arthur, lui, il a tendance un petit peu à sous-estimer, parce que il veut pas trop qu'on sache que il a vraiment très bien fait, parce que des fois, ça pourrait susciter des jalousies ou des problèmes comme ça. Donc, c'est une manière un petit peu anecdotique de le dire, mais... Ça montre à quel point la question quand même de l'argent, de subvention est essentielle.
Ça me fait penser à une petite anecdote, moi aussi, Bernard, c'est que mon père a été fermier toute sa vie et puis il n'a jamais eu de bonne récolte. La meilleure récolte qu'il y a eu, c'était passable. Les graineries étaient bondées, mais quand même, la récolte était... passable.
Ça, c'est un peu comme la température. Il fait jamais beau.
Et la température, c'est quelque chose quand même de très important, parce que quand on demande, bon ben, finalement, à la ferme, qu'est-ce qui est le plus important? Ben, c'est la température. Et même des fois l'hiver, quand on n'a pas besoin qu'elle soit importante, eh ben, elle devient importante quand même.
Et puis la température, ou au moins le climat, a eu un effet quand même extrêmement important dans la vie des gens, là, les gens qu'on veut consulter. Il y a eu la Grande Dépression, par exemple, qui a apporté ces problèmes, même si les fermiers étaient bien placés pour se tirer d'affaires durant la Grande Dépression. Comparativement aux gens de la ville qui avaient moins de ressources.
Et surtout au Manitoba, surtout au Manitoba, parce que par rapport à la Saskatchewan, là c'était vraiment le Dust Bowl. Ouais. Combien qui sont peut-être à l'écoute sont finalement originaires du Manitoba parce qu'un grand-père ou une grand-mère a fait un tour au Manitoba à un moment donné puis a vu que hey, tout est encore vert ici. Ben, je reste ici, je pense.
Ouais, quand on parle d'agriculture, pour moi, c'est comme un kaléidoscope. On touche à une affaire, puis ça nous amène à toutes sortes d'autres choses. Parce que par la température, on embarque aussi, par exemple, comment est-ce que ça affectait différentes sortes de fermes. C'est certain que pour ceux qui font du grain, la question de la pluie, puis du beau temps, puis du temps sec, ça joue d'une façon. Pour ceux qui ont des vaches laitières, ben là, c'est un peu différent si les vaches sont dans l'état, mais il y a le foin.
Il y a quand même le foin, oui.
Ouais. Et puis après ça, ben pour les porcheries, s'il fait trop chaud, il va faire trop chaud dans la porcherie. Il faut s'assurer que c'est bien aéré, que c'est rafraîchi, etc. Alors, ça nous ramène quand même à tous les différents thèmes qu'on peut toucher pareil.
Oui, puis évidemment, ça c'est la température, comme le dit Gilles, bon, c'est une question des fois locale, mais ce qui est formidable aussi quand on pense au contexte de mondialisation dont on parle, il n'y a rien de plus mondialisé dans son esprit qu'un fermier, on va dire, de Baptiste ou d'ailleurs. Mmh. Quand je suis arrivé au Manitoba il y a 30 ans, j'apprends comme ça que Saint-Jean-Baptiste c'est la capitale mondiale des pois. Ah, dit, mais c'est énorme. Dit, ben oui, dans ce coin de pays-là. Ou alors, quand on pense à la moutarde de Dijon. Ben, la moutarde de Dijon, non, mais elle vient du Manitoba.
Oui.
Parce que, il faut bien que quelque part, on obtienne la matière pour faire la moutarde. Et elle vient souvent d'ici. Et puis alors, comme on dit toujours, si on dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres, ben, c'est au-delà de questions de solidarité. C'est quand même une sorte d'adage qui s'applique terriblement dans le monde des fermes. Parce que quand il y a une grande sécheresse, l'Australie est le troisième producteur agricole du monde, il connaît en ce moment une sécheresse absolument terrible, eh bien, globalement, le malheur des Australiens est en train de faire le bonheur des fermiers ailleurs.
Oui. Puis toujours en continuant sur le fil de la température, l'autre chose à laquelle ça me fait penser, c'est le Country Guide. Puis ça nous amène à toute la question des médias, puis de l'ouverture du fermier sur le monde, parce que ça, c'était de lire le journal, de s'informer au sujet de ce qui se passait ailleurs. Ça peut être pour toutes sortes de raisons, pour des choses qu'il fallait acheter, pour des choses qu'il fallait vendre, etc. Mais c'était un thème important aussi. Puis pour revenir à la température, parce qu'on est toujours sur le même sujet, Country Guide avait une fameuse déclaration qui était toujours très intéressante, c'est que la température ou les prévisions de température qu'on vous donne, elle est vraie pour votre région, mais pas nécessairement pour votre ferme.
Donc, on se tirait d'affaire. On va passer à une prochaine chanson, et puis, bon, bien, c'est évident que ce qu'on récoltait sur la ferme, ça se répercutait dans la maison, on s'en servait dans la maison, donc on vivait dans nos vieilles maisons, et c'est de la bottine souriante qui va nous chanter ça.
Si vous voyagez un brin du côté de Saint-Quentin, dites bonjour à mes parents qui habite le cinquième rang. Vous pouvez pas les manquer, prenez le chemin pas pavé. Près de la maison, vous verrez, il y a une croix qu'on a plantée. En vous voyant arriver, ma haute sont habillés. Il dira, mais entrez donc, passez donc dans le salon. Les planchers sont frais cirés, on ose à peine marcher. Un bouquet
les chats embaument l'appartement. Que c'est charmant chez nos parents, ce que ça sent bon dans nos vieilles maisons. Sitôt que vous serez entrés, il faudra vous dégrayer. On vous garde pour le souper, car ce soir y a une veillée. On vide la chambre des garçons, roule le tapis du salon, hurle le pain, tire une bouffée en attendant les invités. Les voisins arrivent gaiement avec leur douzaine d'enfants. On monte en haut les coucher, cinq par lit, faut les tasser. Quand ils sont tous endormis, on ferme la porte sans bruit. On descend le cœur joyeux en attendant les violoneux. Parce que c'est gay dans nos veillées, la vie a du bon dans nos vieilles maisons. Pour ceux qui prennent un petit coup, papa sort son caribou. Quand on est bien réchauffé, on s'invite pour danser. Ticho avec Joséphine, le grand Arthur puis Caroline, Thérèse avec Napoléon, puis tous les maîtres de la maison. Les violons sont accordés, les musiciens tapent du pied. C'est Fritzine qui va coller le premier set de la veillée. Swingez-la, suspenchez-la, les gigueux sont fatigués. Thérèse qui étouffait est allée ôter son corset. Dans son gaiement, c'est le bon temps du rigodon dans nos vieilles maisons. Quand c'est le temps du réveillon, la vieille a fait des crotons, du ragoût de pâte de cochon, la tourtière et du jambon. Pour dessert sur la table, notre bon sirop d'érable, des beignes de la crème d'habitant, les ceintures en feu de cran. Maintenant qu'on a trop mangé, on peut à peine souffler. Des histoires à raconter, on rira, ça fait digérer. Déjà 5 heures du matin, la veillée tire à sa fin. On réveille les enfants, on dit au revoir en voyant. Oh yeah! Ça se mange comme ça. La vie a du bon dans nos vieilles maisons. C'est la tradition dans nos vieilles maisons.
Bonjour chers auditeurs, auditrices de 55 ans et plus. Ici Georges Langelier qui vous invite à être à l'écoute de l'émission hebdomadaire Prends le temps. Des lundis de 9h à 10h, en reprise les vendredis à 11h. Tout ça sur les ondes d'Envol 91 FM, votre radio communautaire.
Ce qui me vient à l'esprit lorsque j'entends la chanson de la bottine souriante, c'est surtout cette solidarité qui existait entre les fermiers. Donc, quand il y avait un malheur quelconque, il y avait inévitablement une corvée où on appelait tout simplement tout le monde des alentours là, pour venir aider. Par exemple, supposons qu'une ferme brûlait. Bien, on s'organisait pour se rencontrer et en ériger une autre le plus vite possible avant que ça cause des problèmes. Donc ça, c'est un aspect quand même pensablement important. Et puis, on pourrait dire aussi que ça se reflétait aussi dans les associations. On créait des associations pour permettre aux fermiers de se regrouper et de faire des choses ensemble.
Oui, et là, ça permet de faire un point extrêmement intéressant, puis, nous nous adressons toujours également aux auditeurs, c'est le leadership. Hein? Pour améliorer le monde agricole dans l'évolution. De vos petits intérêts particuliers, non, essayez de comprendre que si vous mettez vos quelques scènes ensemble, vous allez avoir un certain pouvoir économique, vous allez pouvoir faire quelque chose. Donc, il y a à la fois les gens qui ont apporté un leadership, on peut dire, extérieur, pour essayer de faire évoluer les mentalités dans certains domaines. Et il y a là, alors, toujours, bien, l'appel, on peut dire, de l'intérieur, la personne clé, les quelques personnes clés qui vont, bien, répondre au défi qui est lancé et qui vont faire preuve de leadership. Et la force de toute communauté, bien, c'est d'avoir au moins une ou deux personnes qui est vraiment capable de parler, de prendre les choses en main et qui n'a pas peur. Pas peur de s'engager dans des actions. Et on sait bien que tous nous le savons, ça fait la différence dans tout ce qu'on appelle une communauté, quelle que soit cette communauté-là. Il y a vraiment finalement une communauté que quand il y a certaines personnes qui sont capables d'assumer un leadership.
Et ça m'apporte justement à l'idée que autour de les fermes, il y avait beaucoup d'autres choses reliées, le criblage de grains, les mouvements de coopératifs, les caisses populaires qui ont été mises sur pied, les crèmeries, laitiers, fromageries, moulins à farine, tous les affaires reliées, puis qui ont encore une partie très importante dans notre histoire.
Moi, j'aimerais qu'on parle avant de finir l'émission, puis malheureusement, ça sera bien quand même assez vite, là, de la mentalité. La mentalité a aussi évolué en ce qui concerne les fermes, par exemple. Quelle était la mentalité de nos ancêtres, de ceux qui nous ont précédés, là, en ce qui concerne, par exemple, l'éducation, en ce qui concerne la suite des générations? À qui passe-t-on la ferme, ainsi de suite, là. Toutes ces décisions là, qui devaient être faites au jour le jour pour faire en sorte qu'il y ait pérennité dans cette entreprise-là. Donc, est-ce que...
Ben oui, effectivement, on fait des fois un peu des farces en disant il n'y a rien de plus conservateur qu'un fermier, etc. Mais quand vraiment on regarde à la réalité, quand on lui regarde en pleine face à cette réalité, c'est pas vrai. Il n'y a rien de plus fluide, de plus apte à s'adapter qu'un fermier. On l'a dit tout à l'heure à propos de la machinerie agricole. À propos de l'évolution, on veut dire, le vent change, bon, ben, il faut que tu te revires de bord, il y a toujours la nécessité de s'adapter en permanence, l'adaptation, c'est, les fermiers pourraient sans doute donner beaucoup de leçons d'adaptation au niveau de la mentalité.
Je vais quand même dire qu'il y a eu une période où on s'est éloigné un petit peu des conservateurs, parce que pendant Schreier, il y a eu le programme MECC qui permettait aux fermiers pour transmettre la ferme aux enfants de la vendre au gouvernement. Le gouvernement devenait propriétaire du terrain et l'enfant pouvait ensuite louer du gouvernement. Alors, ça a été une période qui s'en allait un peu plus vers le communisme.
Si on évoque le communisme, là, ça me rappelle une farce, une vieille farce du temps où il y avait des communistes en Pologne et ailleurs. Alors, ça se passe un peu comme si il y a un commissaire du peuple, un bon commissaire du peuple, qui va voir le fermier Stanislas, et puis qui lui dit, camarade, donnerais-tu tous tes chevaux au parti? « Ah ben oui, ben je donnerai tous mes chevaux au parti. Donnerais-tu toutes tes vaches au parti? »« Oui, je donnerai toutes mes vaches au parti. Donnerais-tu toutes tes chèvres au parti? »« Ah oui, je donnerai toutes mes chèvres au parti. Et tes poules? »« Ah ben non. Ah, pas mes poules. »« Mais je comprends pas, camarade Stanislas. T'es prêt à nous donner tes chevaux, tes vaches, tes chèvres, mais pas tes poules? » Ben parce que des poules, j'en ai, moi. Voilà, donc c'est la présence d'esprit du fermier, le côté terre-à-terre nécessaire, qui illustre un petit peu, sans doute, les communistes, on disait, oui, alors il y avait des internationales. La première internationale, il y avait trois internationales différentes de communisme. Et quand on parlait de ça, quand on apprenait ça à l'école, je me disais dans le fond, en voyant les paysans allemands, les paysans français, en ayant entendu des choses sur les paysans vietnamiens, je me disais que non, la véritable internationale humaine qui existe, c'est celle des fermiers, des agriculteurs.
Mmh. Bravo. Mais ça permet de dire, on a touché à toutes sortes de choses, on a dit toutes sortes de choses, mais je pense que ce que ça souligne aussi, c'est qu'il y en a beaucoup à dire, puis il y en aura encore beaucoup plus, puis ce qu'il faut, c'est étoffer tout ça, parce qu'on a besoin de mettre de la matière là-dessus.
En fait, j'avais préparé une série de thèmes que l'on pourrait discuter juste pour vous mettre l'eau à la bouche, et puis on en a couvert peut-être le quart.
Le quart de section, évidemment.
Le quart de section. Et puis, c'est bien évident que moi, je n'avais pas pensé à toutes les ramifications possibles. Donc, c'est pour vous dire que c'est un sujet quand même extrêmement étendu, fertile. On pourrait exploiter ça pendant des heures et des heures. Donc, à vous, chers auditeurs, de nous aider dans ce domaine-là. Il s'agit d'appeler à la Société historique. Si vous avez des suggestions, Gilles, je suis certain, se fera un plaisir, ou encore Diane à la SFM, j'imagine.
Oui, ou le numéro sans frais pour les gens sur rural qui veulent approcher ou parler avec les gens du réseau communautaire. C'est le 1-888-322. Non. Je me mélange, c'est lundi matin, hein? C'est le numéro. Oui, c'est ça. 1-888-322-2553.
Juste pour vous rappeler que cette émission est en reprise vendredi à 11h. Et puis, moi, il me reste à remercier mes trois personnes qui étaient mes invités. Ils ont fait un travail absolument incroyable. Donc, merci Diane, merci Bernard et merci Gilles.
Après quoi?
Plaisir. Merci Claire. Et puis, la dernière chanson, ce sera... on est dans le milieu des années 30, là. Et moi, il n'y aura plus pantoute.
On dit que le chien heureux, il se fait brader la queue. On serait surpris ce beau matin, on voyait la queue branler le chien. Oh, il mouillera plus pantoute, pantoute, il mouillera plus pantoute. La compagnie des parapluies est virée en banqueroute. Les petites filles quand ils sont jeunes, ils portent des petites robes courtes. Mais à présent qu'ils sont plus vieilles, ils n'en portent plus pantoute. Oh, il mouillera plus pantoute, pantoute, il mouillera plus pantoute. La compagnie des parapluies est virée dans ma grotte. Quand ils sont jeunes, ils mangent du nénane. Mais à présent qu'ils sont plus vieilles, ils mangent des grosses bananes. Oh, il mouillera plus pantoute, pantoute, il mouillera plus pantoute. La compagnie des parapluies est virée en banqueroute. L'ancien temps portait l'étoffe du pays. Il serait surpris si aujourd'hui il voyait les bikinis. Oh, il mouillera plus pantoute, pantoute, il mouillera plus pantoute. La compagnie des parapluies est virée en banqueroute.
Oh, il mouillera plus pantoute, pantoute, il mouillera plus pantoute. La compagnie des parapluies est virée en banqueroute.
Les petits poissons dans les rivières, ils nagent avec leur queue. Comment ça se fait sur cette terre qu'on ne puisse pas faire comme eux? Oh, il mouillera plus pantoute, pantoute, il mouillera plus pantoute. La compagnie des parapluies est virée dans ma grotte.
Oh, il mouillera plus pantoute, pantoute, il mouillera plus pantoute. La compagnie des parapluies est virée en banqueroute.
Nos grands-pères de l'ancien temps fumaient de la Virginie. Mais aujourd'hui c'est pas pareil, on fume de la Marie. Oh, il mouillera plus pantoute, pantoute, il mouillera plus pantoute. La compagnie des parapluies est virée dans ma grotte.
Madame, Messieurs, ici Yves Charron, voici vos actualités RFA. Le gouvernement a un peu annoncé hier qu'il investira 30 millions de dollars à diverses initiatives humanitaires en Afghanistan, où le Canada est engagé militairement. Une somme de 15 millions de dollars sera injectée dans un programme de formation d'enseignantes et 10 autres millions de dollars à plusieurs projets de reconstruction en cours. La ministre de la Coopération internationale, José Werner, a fait cette déclaration de ses investissements. Elle s'est d'ailleurs rendue à Kaboul pour ce faire dans le cadre d'une visite surprise en Afghanistan. Au cours des prochaines années, Ottawa va injecter près de 8,5 millions de dollars dans le secteur de la recherche pour la santé cardiovasculaire. Selon le ministre de la Santé, Tony Clement, le tiers de tous les décès au pays est dû à cause des maladies du cœur. La présidente nationale de la Fondation des maladies du cœur, Carol Jellings, a souligné que l'initiative va tirer parti de certains des meilleurs programmes existants dans plusieurs provinces et que cette approche coordonnée va améliorer tout le spectre des soins cardiovasculaires. Des élections complémentaires vont se dérouler le 27 novembre prochain dans les circonscriptions de Repentigny au Québec et de London North Centre en Ontario. Le gouvernement fédéral en a fait l'annonce hier. La circonscription de Repentigny est vacante depuis le décès tragique du député bloquiste Benoît Sauvageau le 28 août dernier. Quant au siège de London North Centre, il est sans représentant depuis la démission du député libéral John Fontana. Il a quitté son siège afin de se lancer dans la course à la mairie de London. La gouverneure générale du Canada,